c'est à l'humain. OK. On comprend un peu plus des choses qui se passent dans ces entreprises, n'est-ce pas? Parce que c'est pas juste une image, c'est pas juste un logo, mais c'est quelque chose derrière. Il y a quelqu'un qui a créé, un fondateur, un entrepreneuriat, un scientifique ou quelque chose comme ça. Mais ils sont toujours derrière ces entreprises. Donc, on va essayer, l'école commence demain, mais on va faire un quiz ce soir. Je vais partager une image et c'est à vous à dire qui est derrière, qui est connu derrière ces entreprises. Vous comprenez? OK. Première. Facebook. Zuckerberg. Microsoft. C'est pas Tim Kyle, c'est Bill Gates. Apple. Steve Jobs. Tesla. Elon Musk. Walt Disney. Les vaccins. Pasteur. C'est quoi ça? C'est un téléphone. Bell. Alexandre Graham Bell. Edison, bravo. Et? Eh, bravo. Chaque invention, chaque technologie, chaque organisation, en fait, ils ont une histoire d'origine. Ils ont quelque chose qui dit, ça c'est pourquoi nous sommes là. Ça c'est pourquoi on a créé cette entreprise. Ça c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui et on fait ce qu'on fait. Mais c'était toujours une partie d'une entreprise. Et certains disent qu'une entreprise qui perd un peu leur pourquoi, ben, c'est une entreprise qui ne dure pas longtemps. Dans l'institution de la religion, Calvin développe un argument fluide montrant comment on peut vraiment connaître notre Dieu. Et c'est intéressant parce qu'il n'a pas commencé avec Jésus, mais il a commencé avec la connaissance de Dieu créateur. Ça, c'était son premier livre. C'est un grand livre, c'est un peu comme ça. Le deuxième livre, c'est sur la connaissance de notre Dieu rédempteur en Christ. Et le troisième et quatrième. Si vous voulez prendre un an, vous pouvez lire tout ce livre, parce que c'est assez dur. Mais il a commencé avec cet aspect d'une connaissance d'un Dieu créateur. Et pour les chrétiens, notre histoire, c'est pas juste qui a commencé avec la croix, mais il a commencé avec la création. Beaucoup de nos luttes contre le péché et notre vie insensée vient de peut-être notre malcompréhension ou notre croyance limitée avec notre Dieu créateur. Le récit de la création explique nos origines. Il explique pourquoi Jésus est venu, pourquoi Jésus est mort sur la croix, pourquoi il est ressuscité. Si on ne fixe pas nos yeux vers un Dieu créateur, glorieux et éternel, souvent on peut tomber dans les erreurs. Et quand notre vision de la vraie nature et bonté de Dieu se brouille, nos objectifs glorieux dans la vie quotidienne deviennent aussi flous. On a besoin à la fois de Dieu créateur, comme Calvin a dit, mais aussi un Dieu rédempteur. Notre texte biblique d'aujourd'hui est composé de deux courts versets, mais on va se pencher vers nombreuses références bibliques qui décrivent et désignent un Dieu trinitaire. Un Dieu trinitaire qui est éternellement glorieux et créateur de toutes les bonnes choses. Éternellement glorieux et créateur de toutes les bonnes choses. Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc, un Dieu trinitaire éternellement glorieux. Je suis né au 20e siècle. Je suis assez jeune, mais 20e siècle, pas de 19e siècle, 20e siècle. Beaucoup d'entre vous, peut-être, vous êtes nés pendant le 20e siècle. Et je pense vers Noël, avec les enfants, quand les jeunes sont, vous avez fait quelque chose avec l'iPad ou quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé qu'en fait, je suis plus proche avec des personnes qui sont dans l'iPad que les personnes qui sont nouveau-nées dans notre église. C'était un peu triste, mais c'est vrai. Mais pour notre Dieu trinitaire, il n'y a pas un jour de départ. Il a toujours existé. Chaque été, on visite ma grand-mère, mais mon grand-père, Hastings, il a décédé quelques années, il y a plusieurs années. Mais quand je visite ma grand-mère, je sens toujours un peu cette vide parce qu'il n'est plus sur la terre. Mais pour notre Dieu trinitaire, il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas une date d'expiration. Dieu existe pour toute l'éternité. Ça, c'est notre Dieu. Et il n'a rien perdu de sa force. Il est toujours puissant comme aujourd'hui, comme il a été au début. Pas au début, mais à la création. L'auteur de Genèse commence l'histoire de Dieu dans ses premiers deux versets avec cet aspect qu'il y a Dieu. Il y a Dieu au commencement. C'est un résumé rapide de chapitre 1, mais aussi une déclaration claire. Dieu a créé toutes choses à partir de rien, y compris le ciel et la terre. Dieu a créé ex nihilo, ça veut dire qu'il a créé à partir de rien. Donc, Dieu a créé ce qu'on connaît, la matière, l'espace, le temps, même la façon qu'on communique, les paroles. C'est Dieu. Genèse 1 établit, en fait, une hiérarchie de l'autorité de qui est notre Dieu. Dieu, en tant que créateur, est splendide dans sa transcendance, au-dessus et au-delà de la création. Dieu est saint, majestueux, parfait, tout-puissant et actif dans toutes ses perfections. Il est le seul à détenir l'autorité suprême. Ça, c'est notre Dieu créateur. Et dans l'Ancien Testament, quand vous voyez le mot « créer » dans l'hébreu, c'est toujours aligné avec Dieu. Parce que Dieu est souverain et création, c'est toujours lié avec la souveraineté et le pouvoir de Dieu. Cependant, il charge divinement l'humanité de gouverner les autres choses par son nom, avec le but ultime de créer un temple ici sur terre, pour son nom, avec le lieu de sa présence, et qu'elle manifeste sa gloire sur terre. Mais pourquoi Dieu a créé ce monde? Pourquoi un Dieu trinitaire, éternellement glorieux, est si important pour nous? La première chose, c'est la foi. Reconnaître Dieu comme créateur demande qu'on ait foi. On ait foi dans le mystère de Dieu, créateur, maître de l'univers. Le livre de Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. « Or la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Si vous avez déjà lu le livre de l'Épître de Hébreux, mais c'est sur le sujet beaucoup de foi, de toutes les choses qu'Abraham a vécues, toutes les choses que les Hébreux voudraient voir. Le fait que ce qu'on voit n'a pas été fait à partir des choses visibles et en ligne avec la doctrine de la création. Le livre de Hébreux montre que Abraham, Dieu a donné Abraham le salut car Abraham a une foi dans un Messie qui vient. Tout comme nous sommes appelés d'avoir une foi dans les choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, dans le mystère. Des choses qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. Il y a un jour où on peut bien expliquer tous ces détails. La deuxième chose, c'est l'adoration. En grandissant dans la foi de Créateur, on peut adorer un Dieu souverain, glorieux, omnipotent, bon et saint. Et on peut ajouter d'autres synonymes pour notre Dieu. Un Dieu trinitaire, éternel, qui était là avant que le monde ne commence et qui sera l'objet de notre adoration pour toute l'éternité. C'est intéressant parce que quand vous voyez le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 4, verset 11, il dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Donc, notre Dieu créateur a créé ce monde pour nous à adorer notre Dieu créateur. Donc, Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est une façon d'adorer notre Dieu glorieux. Et là, c'est vraiment une image des anciens qui jettent et qui prosternent leur couronne devant le trône, offrant leur adoration à Dieu, leur soumission à son autorité. Et ces louanges, c'est important parce que c'est pour l'accomplissement de toutes les choses que Jésus a fait, pour toutes les choses que Dieu a fait. Dans le prochain chapitre, il continue. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc Dieu a créé ce monde pour créer un peuple qui va le louer. La troisième chose, on voit, c'est l'humilité. Une croissance dans notre compréhension avec notre foi dans le mystère de Dieu. Une compréhension un peu plus de l'adoration de Dieu. Et qui est notre Dieu créateur qui a créé toutes ces choses dans notre vie? Ça nous donne une perspective de notre humanité. Ben, si Dieu est plus grand, on peut comprendre un peu plus notre humanité. C'est la chose qu'on voit souvent dans le psaume. Psaume David, chapitre 8, il dit, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. » Quand je contemple le ciel, ouvre tes mains, la lune et les étoiles que tu aies placées, je dis. Donc, il est en train de réfléchir sur la nature. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Il regarde la nature et puis il regarde toutes les choses, la beauté de Dieu dans sa création. Et il regarde et dit, es-tu tu m'aimes? Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. À la lumière de toutes ces choses, de la magnificence éternelle de Dieu, de son auto-existence, qu'il est toujours là, de sa constance inébranlable, cette perspective nous rappelle à quel point que nous sommes fragiles. Il y a pas mal de maladies qui passent autour de nous pendant les vacances, n'est-ce pas? Mais notre Dieu n'est jamais malade. Il n'est jamais fragile. Il ne change jamais. Il est toujours le même Dieu. Ce n'est pas nous. Et en reconnaissant l'autorité de Dieu sur la création, on grandit dans la foi, on grandit dans notre adoration et on grandit dans notre humilité. La deuxième chose, c'est un Dieu trinitaire, créateur de toutes les bonnes choses. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Quelques versets après, Dieu dit, il fait des choses, Dieu dit que c'était bon. Dans Genèse chapitre 1, versets 3 à 31, c'est vraiment détaillé de tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé par sa parole, mais aussi comment il ordonne les choses à grâce de sa parole, qu'il a créé à partir de chaos. Il a créé de rien. Chaque jour de création suit le même schéma. Il commence par « et Dieu dit » et se termine par « il y a un soir, il y a un matin, le jour ». La création témoigne non seulement de la puissance de la parole de Dieu, mais aussi du fait que sa parole apporte la vie pour nous. Et il apporte l'ordre pour nous, qu'il est bon et qu'elle est bonne. Dieu a conçu un monde qui glorifie et reflète sa bonté. Le récit de création nous aide aussi de mieux comprendre notre Dieu trinitaire. On voit clairement qu'il y a un Père, Et il y a un esprit dans les deux premiers versets. Mais où est Jésus dans la création? L'évangile de Jean nous éclaire davantage. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. Et la phrase parole, c'était importante dans cette époque-là parce que la parole, ça veut dire logos. C'est un mot grec qui véhicule une idée de l'expression, le discours de quelque chose divin, un arrière-plan dans l'Ancien Testament. Mais aussi, Jean utilise pour montrer que la parole est plus grande que leur logique, plus grande que la chose qui, leur pensée, leur raison. Que Dieu est plus grand et la parole de Dieu est efficace. Ça change des choses. Quand Dieu parle, il y a des choses qui changent. Il entretient des relations personnelles avec son peuple. Et la parole était avec Dieu, n'est-ce pas? Indique une relation interpersonnelle avec Dieu. La parole était avec Dieu. Ensuite, la parole était Dieu. Ça veut dire que le pro était aussi le même Dieu qui a créé l'humanité au commencement, dans le premier verset. Voici l'élément base de la doctrine de Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Plusieurs personnes avec un seul Dieu. Ça, c'est toujours, c'est tellement différent qu'avec le musulman qui croit dans un Allah qui était solitaire, il n'y avait pas cette relation. Il était là juste pour commander des choses. Mais on a Dieu avec une autorité qui était en relation avec le Fils et le Saint-Esprit et qui cherche des relations avec vous. Ça, c'est les deux chrétiens. On se soumet personnellement aussi. C'est quelque chose de perso qu'on fait avec notre Dieu trinitaire, notre Dieu créateur, parce qu'il cherche des relations avec ses créations. Tu as été créé par Jésus, pour Jésus, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Jésus n'est pas seulement l'agence de création, mais il est aussi le but. Il est aussi notre objectif. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tu as été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tu as été créé pour lui et pour lui. Par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tu subsistes en lui. Quand l'auteur dit que Jésus est le premier-né, c'est pas l'idée que Jésus est né de Dieu. Mais premier-né, ça veut dire que Dieu donne l'héritage à Jésus comme son premier-né. Et dans son autorité à Jésus, et dans son héritage à son Fils, Dieu a donné à Jésus l'autorité sur ce monde. Tout ce qui est dans ce monde est sous le pied de Jésus, comme on a déjà lu, sur son trône et à la droite de Dieu. Tu as été créé par lui et pour lui, et tout se inclinera un jour devant lui, le visible et l'invisible. Le trône, la souveraineté, les dominations, l'autorité, tout. On vit dans un monde brisé, mais il y a une belle vie qui arrive, il y a une belle vie qu'on peut sentir, on peut vivre avec Dieu, même dans un monde brisé. Mais pourquoi ça c'est important pour nous? Pourquoi un Dieu trinitaire qui crée des bonnes choses, pourquoi ça c'est important pour nous? La première chose, c'est sa justice. Ça nous aide quand on croit qu'un Dieu créateur, trinitaire, créateur de toutes les bonnes choses, ayant une autorité sur tout, on peut faire confiance à son justice, à son jugement, qui découle de son amour. On voit des choses qui ne sont pas injustes dans ce monde, mais on a un Dieu créateur qui est juste, qui va juger ces personnes qui sont injustes. Si tout ce qu'il a créé est bon, on peut croire que sa justice est sans jugement, ce seront aussi. Personne n'est sans excuse. Toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples qu'on a lus dans l'Apocalypse auront l'occasion d'entendre l'Évangile et d'y répondre. Romains chapitre 1. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. La colère de Dieu est juste, mais aussi c'est bon. Les deux sont vrais. Dieu peut être en colère et aussi bon. Et sa puissance et sa nature divine sont clairement révélées par sa justice et par son jugement. Le monde naturel témoigne de Dieu par sa beauté, sa complexité, sa conception et son utilité, sans aucune excuse. Personne ne devrait dire que Dieu n'a pas laissé assez de preuves de comprendre qui est Dieu, par son existence ou par son caractère. Le fort revient à ceux qui rejettent ces épreuves. Calvin utilisait souvent cette image que la nature dans la beauté, dans la majesté de qui est notre Dieu, qui est notre glorieux Dieu. Mais on a besoin des spectacles, des lunettes de la parole de Dieu qui nous aide à comprendre avec clarté qui est notre Dieu par l'Évangile. La deuxième chose, c'est son omnipotence, sa toute-puissance. Quand on croit qu'un Dieu trinitaire est le créateur de toutes les bonnes choses, on peut croire que Dieu peut faire l'impossible au milieu de notre chaos parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est tout-puissant. On l'a entendu de bouche de Marie dans sa prière pendant Noël, n'est-ce pas? Elle a prié que Dieu peut faire les choses impossibles. On entend le cri des prophètes comme Jérémie qui demande que Dieu peut faire les choses impossibles dans leur vie, ce qui reflète son caractère parfait et bon. On peut faire confiance à sa bonté, à son bon sens quand notre calendrier et nos plans sont chamboulés, peut-être à cause de maladie, peut-être à cause de quelqu'un d'autre. On a confiance dans notre Dieu par sa grâce, qui se manifeste tout au long de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, son amour pour son peuple. Jérémie, chapitre 32, versets 17 à 19. « Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu fais preuve de bonté jusqu'à la millième génération et tu fais payer la faute des pères et leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant qui est pour nom l'Éternel, le maître de l'univers. Tu es un excellent conseiller, généreux dans ton activité, toi qui examines toutes les voies des humains pour traiter chacun conformément à sa conduite en fonction de ses agissements. » Ça, c'est notre Dieu créateur. Il est juste. Il est omnipotent. Et il a une mission. Quand on croit que le Dieu trinitaire est le créateur de toutes les bonnes choses, ben, on se rejoindra à lui dans les bonnes œuvres de sa mission. On n'a pas besoin de créer notre propre mission. On peut joindre les choses que Dieu est en train de faire autour de nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. L'histoire de notre origine n'est pas de créer de nouvelles stratégies. Souvent, c'est pas de créer de façons de faire une autre chose, une nouvelle chose. Mais c'est de joindre sa mission pour son peuple. J'aime bien ce verset en Psaume 139. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Il n'y a pas le mot « mission » là, mais il y a une mission parce que c'est Dieu qui cherche ses enfants. C'est Dieu qui cherche, même nous, avant qu'on était né. Le psalmiste rend compte qu'avant que sa mère ne sache qu'elle était enceinte, le Seigneur avait un objectif, un plan pour ses enfants. Sa vie personnelle a commencé dans le ventre de sa mère et Dieu en a déjà tracé le cours pour cet enfant. Plus on réfléchit au dessein de Dieu, créateur sur nous, et l'autorité qui nous confère en tant qu'être humain, plus on devrait être poussé à joindre sa gloire, joindre les choses qu'il est en train de faire, joindre les choses de sa bonté et de créer un peuple distinct de ceux qui ne connaissent pas le Créateur et le Rédempteur. Plus on fait l'expérience de la bonté de Dieu dans notre vie, plus déborde de sa bonté dans la vie de ceux qui nous entourent, parce qu'on comprend qui est notre Dieu. Alors que le péché fait douter d'un Dieu trinitaire, éternellement glorieux, créateur de toutes les bonnes choses, nous sommes invités à expérimenter un Dieu trinitaire éternellement glorieux, qui est plus grand que nous, avec la foi, avec l'adoration, avec l'humilité. Un Dieu trinitaire, créateur de toutes les bonnes choses. Il est bon et on peut avoir confiance dans sa justice, dans son omnipotence et dans sa mission. J'ai commencé par des images et j'aimerais terminer par d'autres images, mais c'est le même jeu, ok? Dites-moi qui est le créateur de chacun d'entre elles, ok? Dieu, ok, vous avez bien entendu. Dieu. C.S. Lewis écrit que une fois dans notre monde, une étable contenait quelque chose de plus grand que notre monde entier. Dieu créateur, il a envoyé son Fils, qui était plus grand que le monde entier, pour nous, parce qu'il est bon. Il est notre créateur. Jean chapitre 1, verset 14, il a expliqué comme ça. La parole, Jésus, s'est fait homme. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils, unique, venu de Père. Pourquoi c'est Dieu qui s'installe dans notre quartier? Pourquoi il a déménagé dans notre quartier? Parce que notre Dieu créateur, dès le début de la création, savait qu'il enverrait un jour son Fils pour racheter son peuple, afin qu'il puisse faire l'expérience de son amour pour l'éternité et participer à sa louange et sa gloire pour le monde entier. Comme il a conçu, comme il a voulu, comme il le gouverne aujourd'hui depuis son trône. Dieu créateur avec son autorité. Même si on n'a pas toujours la foi, même si on n'a pas toujours la confiance dans sa bonté, même si on voit des choses qui sont très difficiles autour de nous, on sait que son amour inébranlable ne nous ferait jamais de faux. Depuis le début jusqu'à tout ce que l'éternité, de début jusqu'à notre destination éternelle dans la gloire. Je ne sais pas pour vous, mais en 2025, j'ai besoin plus d'autorité de notre Dieu créateur dans ma vie. Je veux bien pas arranger mon royaume, mais je veux bien vivre dans le royaume de Dieu et je voudrais vivre avec une croissance et une foi et avec une adoration que Dieu est plus grand que mes fautes, que Dieu est plus grand que mes faiblesses. Et il peut tracer le chemin pour moi et il peut tracer le chemin pour vous si on a l'humilité pour demander. Parce que son amour est toujours bon et il nous écoute. Ça, c'est notre prière. Je vais prier et on va prendre le Saint-Saint. Seigneur, c'est épiphanie, c'est une façon de célébrer que la magie qui est venue, le roi. Mais tu es notre roi, tu es notre créateur, tu es l'autorité suprême. Pardonne-nous quand on veut essayer de prendre le contrôle. Pardonne-nous quand on veut créer nos propres stratégies sans parler avec toi. Pardonne-nous quand on n'a pas la foi, on manque l'adoration, on manque d'humilité, parce que nous sommes trop égoïstes. Seigneur, aide-nous à comprendre plus en plus cette année que tu es si grand, plus grand que nous pouvons imaginer. Et tu as un amour pour nous plus grand qu'on peut imaginer aussi. Seigneur, merci pour la bonne nouvelle que tu es devenu homme pour nous, pour ta gloire, pour ton Église et pour ton peuple. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain et après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Dans la série de prédications, il y a cette image, et je vois maintenant, mais cette image. Et c'est intéressant parce que l'idée avec cette image, c'est une art japonaise, et on va expliquer un peu plus dans l'avenir. Mais l'idée, c'est la poterie qui est cassée, et l'artiste prend la pièce et ils ajoutent d'or. Et en fait, maintenant, c'est plus cher. L'art, c'est plus cher maintenant qu'avant. Et ça, c'est exactement la bonne nouvelle pour nous ce soir. Ça, c'est notre rappel, que Dieu, notre Créateur, il est en train de recréer chacun de nous qui croit en lui. Et on prend le Sainte-Seine avec cet rappel, que premier verset, Dieu nous a créés. Mais après, il y a le sabbat, le repos en lui. Prends le sens ce soir avec cet aspect qu'on peut prendre notre repos en lui parce qu'il est en train de faire quelque chose de merveilleux dans notre vie. Amen.